Chapitre 2e. Mariette, après avoir quitté le charnier des Innocents, arriva bientôt dans cette sombre et triste rue nommée rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois et entra dans l'une des dernières maisons qui font face aux noires murailles de l'église. Après avoir traversé une allée obscure, Mariette commença de gravir un escalier délabré non moins obscur que l'allée, car il ne recevait de jour que par une cour si étroite qu'elle ressemblait à un puits carré. La loge de la portière était située à quelques marches du palier du premier étage. La jeune fille s'arrêtant devant cette loge, dit à une femme qui s'y trouvait. « Madame Justin, avez-vous eu la bonté de monter chez ma marraine voir s'il n'avait besoin de rien ?»« Oui, mademoiselle Mariette, je lui ai porté son lait, mais elle est d'une humeur si massacrante qu'elle m'a reçu comme un chien. Si ça n'avait été à cause de vous, je vous l'aurais joliment relevé du péché de paresse. » « Hélas, madame Justin, il faut avoir pitié d'elle, elle souffre tant. »« C'est ça, vous l'excusez toujours, vous qui êtes son pâtira, mademoiselle Mariette. »« Ça prouve votre bon cœur, mais ça n'empêche pas que votre marraine soit méchante comme un âne rouge. »« Pauvre fille, allez, on peut bien le dire, vous faites votre purgatoire d'avance, et s'il n'y avait pas de paradis, vous seriez volée. »« Adieu, madame Justin, je monte bien vite chez nous. »« Attendez donc un instant, j'ai une lettre là pour vous. » Une lettre ? S'écria Mariette, en devenant toute rouge et sentant son cœur battre d'aise et d'espoir. Une lettre de province ? Oui, mademoiselle, elle est timbrée de Dreux et coûte 6 sous. La voici. Il y a au coin de l'enveloppe, très pressée. Mariette prit vivement la lettre, la mit dans son sein, puis tirant sa petite bourse, elle y prit la dernière pièce de 10 sous qui s'y trouvait et paya la portière qui lui rendit sa clé. La jeune fille monta rapidement chez elle, à la fois heureuse, triste et inquiète, heureuse d'avoir reçu une lettre de Louis, inquiète de la signification de ces mots très pressés, inscrits sur un coin de l'enveloppe, ainsi que l'avait dit la portière. Triste enfin, parce qu'il lui faudrait attendre plusieurs heures peut-être avant de savoir ce que Louis lui écrivait, car elle craignait de s'absenter de nouveau après avoir laissé sa marraine si longtemps seule. Mariette atteignit enfin le 5e étage de cette maison délabrée, triste et empestée par les eaux d'immondices presque toujours croupissantes dans les plombs établis à chaque palier. Ce fut avec un grand battement de cœur que la jeune fille ouvrit la porte de la pauvre chambre lambrissée qu'elle occupait avec sa marraine. Celle-ci était couchée dans le seul lit que possédaient les deux femmes, un mince matelas, alors roulé dans un coin et la nuit étendue sur le carreau, servait de couche à Mariette. Une table à ouvrage, une vieille commode, 2 chaises, quelques ustensiles de ménage accrochés au-dessus de la cheminée, situés entre 2 placards, tel était l'ameublement de ce logis, d'une extrême propreté cependant, et à peine éclairé par une petite fenêtre prenant jour sur la cour sombre et infecte. Madame Lacombe, ainsi se nommait la malade, était une grande femme de 50 ans environ, d'une maigreur et d'une pâleur effrayantes, d'une figure désagréable et dure. Un sourire amer, sardonique, causé par les longs ressentiments de la misère et de la douleur, contractait incessamment ses lèvres blafardes. Presque courbée en 2 dans son lit, on ne voyait d'elle au dehors que son bras mutilé, enveloppé de linge, et sa figure atrabilaire, coiffée d'un vieux bonnet d'où s'échappaient çà et là quelques longues mèches de cheveux gris. Madame Lacombe semblait alors souffrante et courroucée. Ses yeux caves brillaient d'un feu sombre. Elle fit un effort pour se retourner dans son lit. Afin de mieux regarder sa filleule, elle s'écria d'une voix menaçante « D'où viens-tu »« Ma marraine, coureuse, tu me laisses seule exprès pour me faire damner, n'est-ce pas ?»« Je suis restée à peine 1 heure dehors, ma marraine. Et tu espérais me trouver morte de rage en arrivant, hein ?»« Oh mon Dieu, oui, va, pleurniche, je ne suis pas ta dupe. Tu as assez de moi, tu en as trop. » Le jour où l'on clouera ma bière, ça sera fête pour toi et aussi pour moi, car c'est trop souffrir. Non, ajouta cette malheureuse en portant la main à sa poitrine et poussant un long et douloureux gémissement. Mort et passion, c'est trop souffrir aussi. Mariette essuya les larmes que lui arrachaient les sarcastiques duretés de la malade, s'approcha d'elle et lui dit avec un accent de douceur angélique. Votre dernière nuit avait été si mauvaise que j'espérais que la journée serait bonne et que vous auriez un peu dormi ce matin pendant mon absence. Que je souffre ou que je crève, qu'est-ce que ça te fait pourvu que tu t'en ailles courir les rues ? Je suis sorti un instant ce matin parce que cela était nécessaire, ma marraine. Mais en m'en allant, j'avais prié Madame Justin de... J'aimerais autant voir la mort que cette créature-là. Aussi, quand tu le peux, tu me l'envoies. C'est toujours ça, en attendant. Mariette sourit avec une amertume navrante, ne répondit rien à ce nouveau sarcasme et reprit doucement. « Ma marraine, voulez-vous que je panse vos bras ?»« Non, l'heure est passée, tu l'as fait exprès. »« Je suis fâché d'avoir été en retard, mais permettez-moi toujours de vous panser. »« Laisse-moi tranquille. » »« Mais, ma marraine, la plaie s'aggravera. »« C'est ce que tu veux. »« Ma marraine, je vous en prie, ne m'approche pas. »« J'attendrai, » dit la jeune fille en soupirant. Puis elle reprit. « J'avais dit à Madame Justin de vous monter votre lait. Le voilà. Voulez-vous que je le fasse chauffer ?»« Du lait, toujours du lait, le cœur m'en soulève. Le médecin m'est ordonné de me donner du bon bouillon, fait avec de la bonne viande et une moitié de poule. »« Ah bah oui, j'en ai eu, lundi, mardi, et puis voilà. Et nous sommes à dimanche. »« Ma marraine, ce n'est pas ma faute, le médecin ordonne. Mais il faut trouver l'argent pour suivre ses ordonnances. Et si je gagne 20 sous par jour maintenant, c'est à grand-peine. » « Tu ne regardes pas la dépense pour ta toilette ?» Mariette secoua tristement la tête et répondit avec une résignation touchante. « Vous l'avez vu, j'ai passé l'hiver avec cette robe d'indienne, ma marraine. J'économise tant que je peux et nous devons 2 termes. »« Ça veut dire que je te suis à charge, n'est-ce pas ? Voilà tes remerciements. Et je t'ai ramassé dans la rue et je t'ai fait apprendre ton état. Va, ingrate, mauvais cœur. »« Non, ma marraine, je ne suis pas ingrate. » Quand vous êtes moins souffrante, vous me rendez plus de justice, répondit Mariette en contenant ses larmes. Mais je vous en prie, ne restez pas ainsi sans rien prendre, cela vous fera mal. Je le sais bien, mais j'ai des crampes d'estomac, n'y pas tenir. Vous voyez, tenez, prenez votre lait, je vous en prie, ma marraine. Va au diable avec ton lait, tu m'impatientes. Voulez-vous que j'aille vous chercher 2 œufs frais ? Non. Ou que je vous fasse cuire un peu de riz au beurre ? « Je veux du poulet. »« Ma marraine, c'est que quoi ?»« Je ne peux pas prendre un poulet à crédit. »« J'aurai assez d'un demi ou d'un quart. »« Tu avais ce matin 27 sous dans ta bourse. »« C'est vrai, ma marraine. »« Alors va m'acheter un quart de poulet chez le rôtisseur. »« Ma marraine, c'est que cet argent ?»« Cet argent, je ne l'ai plus. »« Il ne me reste que quelques sous. »« Et tes 2 pièces de 10 sous ?»« Ma marraine. »« Répondras-tu ?» Tes 2 pièces de 10 sous, où sont-elles ? Je ne sais, répondit la pauvre fille en rougissant et se reprochant la dépense de sa correspondance avec Louis. Ces petites pièces seront glissées de ma bourse et je ne les ai pas retrouvées. Tu mens, tu rougis, je vous assure. C'est ça, dit la malade avec un ricanement sardonique, pendant que je suis à râler de besoin sur mon grabat, elle aura dégoinfré des gâteaux. Moi, mon Dieu, va-t'en. « Sors d'ici, laisse-moi crever de faim si tu veux, mais que je ne te vois plus !» Et cette malheureuse, poussée à bout par l'âcre ressentiment de la souffrance et d'un malheur acharné, ajouta avec un éclat de rire, d'une ironie sinistre. « Tu tiens bien à me le faire boire, ce lait. Il y a peut-être quelque chose dedans, je te suis si à charge. » À cette accusation encore plus insensée qu'elle n'était atroce, Mariette resta un moment interdite, car elle ne comprit pas tout d'abord le sens de ses paroles, mais lorsqu'elle l'eut compris, elle se recula en joignant les mains avec effroi, puis, ne pouvant retenir ses sanglots et cédant à un mouvement irrésistible, elle se jeta au cou de la malade, l'enlaça de ses bras et la couvrit de larmes, de baisers, en murmurant d'une voix déchirante « Oh, marraine, marraine !» Cette protestation navrante contre une accusation qui ne pouvait naître que d'un cerveau délirant rappela heureusement la malade à la raison. Son cœur ulcéré, corrodé, se détendit un peu, et ainsi que cela lui arrivait parfois, elle eut conscience de son affreuse injustice en sentant ruisseler sur ses joues fiévreuses les larmes de sa filleule. Madame Lacombe prit alors une des mains de Mariette dans la sienne, et de son bras mutilé tâcha de presser la jeune fille contre sa poitrine en lui disant d'une voix émue « Allons petite, ne pleure pas, es-tu bête ?» Ne vois-tu pas que je disais ça en riant ? En riant, lugubre plaisanterie, digne, hélas, de cette sombre misère. C'est vrai, ma reine, reprit Mariette en essuyant du revers de sa main ses yeux et ses joues baignées de pleurs. C'est vrai. J'ai eu tort de croire que vous parliez sérieusement, mais ça a été plus fort que moi. Que veux-tu ? Il faut avoir pitié de cette pauvre marraine, ma petite Mariette, reprit la malade avec un morne accablement. À force de souffrir, vois-tu, la peau chauffée, elle aura crevé, et j'ai le cœur comme la bouche, amer, amer. Je sais bien que c'est malgré vous que vous vous emportez quelquefois, ma reine. Dame, c'est si facile d'être toujours juste et content quand on est heureux, tandis que vous, vous n'avez guère été heureuse. C'est vrai, dit la malade en éprouvant une sorte de satisfaction cruelle, à justifier son caractère atrabilaire par l'énumération de ses griefs contre une implacable destinée. C'est vrai, il y a beaucoup de sorts comme le mien, mais il n'y en a pas de pire. Battu en apprentissage, battu par mon mari jusqu'à ce qu'il se soit noyé, étant saoul, devenu poumonique et estropié dans mon état, je traîne mon boulet depuis 50 ans, et bien malin celui qui pourrait me dire. Femme Lacombe, vous avez été au moins une fois heureuse, ce qui s'appelle heureuse, pendant un jour, un seul jour de votre chaîne de vie. C'est pourtant vrai, ça, ma petite Mariette. J'ai eu, comme on dit, une vie sans dimanche, quand il y en a tant d'autres pour qui chaque jour est un dimanche. Pauvre marraine, je ne comprends que trop bien ce que vous avez dû souffrir, allez. Non, petite, non, tu ne peux pas comprendre, quoique tu aies déjà bien connu la peine avec tes 18 ans. Mais au moins, toi, tu es gentille, et quand tu as un bonnet blanc et frais avec un bout de ruban rose sur tes cheveux blonds, et que tu vois dans ton miroir la jolie mine, tu as des petits moments de contentement. Marraine, écoutez, je te dis que si, moi, ça contente toujours, sois franche, petite. Avoue que tu es toute aise et un peu fierotte quand on se retourne pour te regarder, malgré la mauvaise robe de dessous et tes gros souliers lacés. Oh, pour ça, marraine, dès que je m'aperçois qu'on me regarde, ça me rend toute honteuse. Tenez, quand j'allais à l'atelier, il venait un monsieur qui me regardait toujours en venant parler à Madame Jourdan. Ça m'impatientait à mourir. Oui, mais au fond, ça contente, et quand tu seras vieille, tu te souviendras du temps jadis. Tu auras du moins comme quelque chose qui reluira dans ta jeunesse, tandis que moi, je ne vois que du noir, et je ne sais plus seulement si j'étais jeune. Mais pour l'aide, j'en suis sûr. Oh, marraine, si laide que j'en prenais les miroirs en grippe. Aussi, je n'ai pu trouver pour mari qu'un vieil ivrogne qui me rouait deux coups, et je n'ai pas même eu la chance de me réjouir de sa mort, car il m'a fallu payer ses dettes de cabaret. Enfin, comme je suis né coiffé, je suis devenu estropié, incapable de travailler, et je mourrais de faim si je ne t'avais pas eu. Allons, marraine, vous n'êtes pas juste, dit Mariette avec un tendre sourire, voulant dissiper la noire humeur de Madame Lacombe. Vous avez, à ma connaissance, eu du moins un jour heureux dans votre vie. Lequel donc ? Quand, après la mort de maman, votre voisine, vous m'avez prise avec vous par charité. Eh bien ? Est-ce que cette bonne action ne vous a pas satisfaite ? Est-ce que ça n'a pas été au moins pour vous un jour heureux que celui-là, ma reine ? Si tu appelles ça un jour heureux, merci. Comment ? Dis donc que ça a été un de mes pires jours, au contraire. Ma reine ! Dit tristement la jeune fille. Pardi ! Mon ivrogne de mari était mort, et une fois ses dettes payées, je n'avais plus de soucis que pour moi. Mais en me chargeant de toi, petite, c'est comme si je m'étais trouvée veuve avec un enfant sur les bras. Et tu crois que c'est gai, toi, pour une femme qui déjà se suffit à peine à elle-même? Mais tu étais si gentille avec ta petite tête frisée et tes yeux bleus, tu avais l'air si triste, agenouillée devant le corbillard de ta mère, que je n'ai pas eu le courage de te laisser aller aux enfants trouvés. Aussi, quelle mauvaise nuit j'ai passée en me demandant ce que je ferais de toi, ce que tu deviendrais, si le travail venait à me manquer. Tiens, vois-tu, Mariette, j'aurais été ta mère que je n'aurais pas été plus tourmentée. Et tu appelles ça un jour heureux pour moi ? Non, non. Si j'avais été dans l'aisance à la bonne heure, j'aurais dit « Le sort de cette petite est assuré, et c'est là une chose qui vous contente. Mais te faire seulement changer de misère, il n'y a pas là de quoi être gai. » « Pauvre marraine, » dit la jeune fille profondément attendrie, puis, souriant dans ses larmes et voulant tâcher de rendre un peu de calme à cette âme si ulcérée, elle reprit « Eh bien, ma reine, ne parlons pas de jour, mais seulement de moment, car moi, je veux vous trouver absolument flagrant délit de bonheur, en ce moment, par exemple. En ce moment. Vous êtes, j'en suis sûr, contente de ne plus me voir pleurer de chagrin comme tout à l'heure, et cela, ma reine, grâce aux bonnes paroles que vous me dites. » La malade secoua tristement la tête. « Quand mon humeur acariâtre s'apaise un peu, comme maintenant, sais-tu à quoi je pense ? À quoi, ma reine ? Je me dis... Mariette est une bonne petite fille, c'est vrai, Mais je suis presque toujours si dure, si injuste pour elle qu'au fond elle doit me détester, et je le mérite. « Allons, marraine, » dit douloureusement la jeune fille, « voilà que vous revenez à vos mauvaises pensées de tout à l'heure. Avoue que je ne me trompe pas, et mon Dieu, je ne dis pas cela pour te gronder, tu as raison, tu te tues du travail pour moi, tu me sers et le plus souvent je te paye en dureté. Va, pauvre petite, ma mort sera pour toi un bon débarras, et mieux vaut que l'homme à la bière vienne plus tôt que plus tard. » Vous l'avez dit tout à l'heure, ma reine, quand vous parlez de choses si vilaines et si tristes, c'est une plaisanterie, et je le prends ainsi. » Repartit Mariette en tâchant encore de sourire, bien qu'elle sentît de nouveau son cœur se briser, en voyant la malade sur le point de retomber dans ses noires extravagances. Mais celle-ci, touchée de l'expression d'angoisse qu'elle remarqua de nouveau sur les traits de sa filleule, lui dit « Puisque je plaisante, petite, ne prends donc pas un air si chagrin. « Voyons, allume le réchaud, fais-moi une soupe au lait, et pendant qu'elle chauffera, tu panseras mon bras. » Mariette fut aussi contente de ces ordres de sa marraine que s'elle lui eût dit les meilleures paroles. Elle se hâta de prendre sur une planche du placard le seul morceau de pain qui resta séant, l'éminça dans un poêlon rempli de lait, alluma le réchaud, le porta sur le palier et revint auprès de la malade. Celle-ci lui tendit son bras mutilé, qui, malgré la répugnance que devait inspirer une plaie putride, fut pansée par Mariette avec autant de patience que de dextérité. La résignation de la jeune fille, son dévouement, ses prévenances, ses soins empressés, émurent de nouveau le cœur de Madame la Combe. Le pansement terminé, elle dit à sa filleule, sans pouvoir s'empêcher de joindre au témoignage de sa reconnaissance une comparaison amère. « On vante les sœurs de charité ?» « Il n'y en a pas une qui mérite la moitié autant que toi, petite. »« Ma reine, ne dites pas cela. »« Est-ce que la plupart ne sont pas comme nous, des enfants de misère ?»« Mais les bonnes sœurs se dévouent à soigner des étrangers, ma reine. »« Tandis que vous êtes pour moi comme une mère, je fais mon devoir, j'ai donc moins de mérite qu'elle. » »« Oui, pauvre Mariette, parlons-en de ma tendresse pour toi. Elle est belle. »« Tout à l'heure encore, je t'ai fait fondre en larmes, et sans doute je recommencerai demain. » Mariette, afin de s'épargner le chagrin de répondre aux amères paroles de sa marraine, alla chercher la soupe au lait qu'elle apporta fumante après avoir éteint le réchaud. La malade mangea cette soupe avec assez d'appétit. À la dernière cuillerée, elle dit à Mariette « Mais j'y songe, petite, et toi ?»« Oh, moi, marraine, j'ai déjeuné, » répondit la pauvre menteuse. « Ce matin, j'ai acheté un petit pain de seigle que j'ai mangé tout en marchant. Mais laissez-moi ranger votre oreiller. » Vous pourrez peut-être dormir un peu. Vous avez passé une si mauvaise nuit. Tu le sais bien, tu as toujours été sur pied. Bon, je ne suis pas très dormeuse, moi, ma reine, et la veille ne me fatigue pas. Allons, vous trouvez-vous mieux coucher ainsi? Oui, merci, petite. Alors je vais prendre mon ouvrage et me mettre auprès de la fenêtre. Il fait si sombre ici et j'ai un ouvrage si vétilleux. Qu'est-ce que tu couds donc là? Oh, une pièce magnifique, ma reine, une chemise de batiste super fine. Madame Jourdan m'a confié, en me recommandant bien de ne pas la perdre, cette superbe garniture de Valenciennes qui vaut à elle seule 200 francs et qui mettra chaque chemise à 300 francs, pièce au moins, et il y en a 2 douzaines à faire. Il paraît que c'est pour une demoiselle entretenue, » ajouta naïvement Mariette. La malade partit d'un éclat de rire sardonique. « Qu'avez-vous, ma reine ? » dit la jeune fille assez surprise. « Une drôle d'idée. » Ah. Dit Mariette, non sans appréhension, car elle connaissait le caractère habituel des plaisanteries de Madame la Combe. « Et quelle idée avez-vous, ma reine ?»« Je me demande à quoi ça sert qu'il y a sur terre tant de pauvres mondes qui, comme toi et moi, ne connaissent dans la vie que peine et misère. Le sais-tu, petite, à quoi ça sert ?»« Dame, ma reine, que voulez-vous que je vous dise ?»« Ça sert à ce qu'une honnête fille comme toi, qui n'a que 2 ou 3 mauvaises chemises de calicot rapiécées à se mettre sur le corps, » gagne 20 sous par jour à coudre des chemises de 300 francs pour... Bon courage à l'ouvrage, petite. Je vais tâcher de rêver cimetière par là-dessus. » Et la malade se retourna du côté de la ruelle et ne dit plus rien. Heureusement, Mariette avait le cœur trop pur et était trop préoccupée pour sentir la désespérante amertume des derniers sarcasmes de sa marraine. Et pendant que celle-ci était tournée du côté de la muraille, la jeune fille tira de son sein la lettre très pressée que la portière lui avait remise, et tout en continuant de travailler, elle posa cette lettre sur ses genoux et à l'abri des regards de la malade.